1h05, voici la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Et Antoine, merci, vous restez surtout avec nous. Tout de suite, on bascule effectivement dans la deuxième partie de la grande table, c'est-à-dire de plein pied dans le champ des idées avec notre invité, l'historien Yvan Jablonka. Je suis née le mercredi 19 janvier 1977, à minuit pile, le mercredi 19 janvier 2011. Le jour de mes 34 ans, à 7h15 du matin, le scooter de Laetitia Perret a été découvert renversé sur le bas-côté, couché sur le flanc, les clés encore sur le contact, à 50 mètres de là où elle habitait. Cette nuit-là, peu après minuit, Laetitia a été poignardée et étranglée, elle avait tout juste 18 ans. On apprendra bien plus tard ce qui est arrivé cette nuit à Laetitia, sa mauvaise rencontre, sa confiance abusée, son insouciance massacrée, plus qu'un meurtre, une vie volée et une mort qui a été démembrée. Vous vous souvenez peut-être de son sourire timide, toujours la même photo en une de vos journaux et des marches blanches organisées, du portrait robot aussi et des silences du présumé coupable Tony Meillon, de la polémique politique et judiciaire qui a suivi, de l'intense couverture médiatique qui a accompagné des semaines d'enquête. J'étais enceinte de 5 mois, j'attendais une fille et je me demandais si j'aurais pu, si j'aurais su, si je saurais la protéger de ça.
Des gendarmes ont poursuivi leurs recherches ce jeudi pour retrouver Laetitia, une jeune fille de 18 ans, portée disparue depuis mardi soir à Pornic.
Au terme d'une soirée en compagnie de Tony Meillon. Ce jour-là, la jeune femme est vue pour la dernière fois à la sortie du restaurant où elle travaillait, à la Bernerie Henri. Son scooter sera retrouvé le lendemain matin, dans le fossé, juste à côté de son domicile. Rapidement, Tony Meillon est interpellé. Les importantes traces du sang trouvées dans son véhicule conduisent les juges d'instruction à le mettre en examen pour enlèvement suivi de meurtre.
Tony Meillon est aujourd'hui muré dans son silence, dans ses dénégations. Sa seule attitude devant les enquêteurs ou devant les juges, c'est un sourire goguenard. Nous nous passerons donc de son aide et nous retrouverons le corps de Laetitia parce que nous devons aux familles vérité et justice.
C'est dans une ancienne carrière de granit, entre Nantes et Saint-Nazaire, que le corps démembré d'une jeune fille, lesté de grillage et immergé dans ce qu'on appelle le trou bleu sur la commune de Lavaux-sur-Loire, a été découvert aujourd'hui et sorti de l'eau dans l'après-midi.
Nous avons retrouvé en fin de matinée un corps féminin composé d'une tête, de 2 membres supérieurs et de 2 membres inférieurs.
Manifestement, elle est décédée à la suite d'un étranglement.
L'incertitude est terminée. L'espoir est mort, reste la douleur intense, intense chez la famille Patron.
C'est inhumain d'une façon, c'est quelque chose, c'est impensable qu'on puisse faire des choses comme ça. Cette pauvre fille qui ne demandait rien.
Depuis le début d'après-midi, Tony Meillon, l'assassin présumé de Laetitia Perret, est entendu par les 2 juges d'instruction en charge de l'enquête.
Tony Meillon devra donc répondre d'enlèvement et de séquestration suivie de mort devant la cour d'assises de Loire-Atlantique.
Le permis d'inhumer a été délivré par les juges d'instruction ce mercredi, il y a quelques heures seulement, et la cérémonie a pu avoir lieu, donc 5 mois d'une attente terrible, mais c'est un soulagement aujourd'hui que de pouvoir enterrer Laetitia.
C'est ça qui est important, il faut taper des mains, il faut résister. La route est longue, est très, très longue, on sera toujours là, chaque année. Merci à vous.
Le 19 janvier 2011, cette affaire a trouvé un écho intime en moi, je vous le disais. Et vous, Yvan Jablonka, ce « ça » qu'on vient d'entendre résumé, condensé en une petite minute trente, avant d'en venir à la démarche de l'historien, humaine mais rationnelle, que vous avez choisi de suivre plus tard pour comprendre le drame qui s'est aussi joué là. D'abord, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'en vous aussi, ce fait divers a d'abord résonné d'une manière particulière ?
J'ai découvert ce fait divers comme tout le monde, en lisant la presse, en regardant la télévision. Et puis celui-là, plus qu'un autre, m'a touché sans doute parce que je suis le père de trois filles, et vous évoquez vous-même votre maternité. Le fait divers, la violence extrême, nous renvoie tous à nous-mêmes, à ce que nous sommes, à ce que nous voulons être, à nos enfants aussi, parce que voilà, nos enfants, on essaye de les aimer, de les protéger. En tant que père de trois filles, je me demande aussi comment préserver mes enfants de la violence, mais aussi de la misogynie.
Donc avant l'historien, ça a parlé au père avant de parler à l'homme.
Mais on est tout à la fois. Je suis historien et en même temps, je suis aussi père de famille, homme de sexe, enfin homme au sens masculin, j'entends. Et ce livre, je l'ai écrit à plusieurs titres. Je l'ai écrit aussi en tant que citoyen parce que l'affaire, comme on le sent bien, pose des questions qui sont bien plus vastes qu'un fait divers. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir exécutif? Comment respecter le peuple sans démagogie, etc., etc.
Antoine Mercier.
Oui, non, j'allais dire, vous avez réagi plutôt, j'allais dire, comme un Français moyen par rapport à cette affaire. Qu'est-ce que l'historien, finalement, est-ce que votre vocation d'historien, votre travail d'historien a aussi joué un rôle dans la saisie? Vous avez supposé que là, peut-être, il y aurait quelque chose à en tirer au-delà de l'émotion que chacun a pu ressentir
qui
pour soi-même.
Qui ferait matière d'histoire, ouais.
D'abord, l'émotion, comme vous le dites, est matière historique. Plus largement, j'ai essayé de traiter ce fait divers comme un objet d'histoire, en montrant qu'on ne pouvait pas le résumer à un crime, fut-il horrible. Donc dans ce fait divers, on peut voir le portrait de la France, enfin d'une certaine France des années 2010. J'entends par exemple le fonctionnement de l'exécutif, la manière dont le président de la République s'est emparé du crime, les évolutions de la justice, de la magistrature, puisque ce qui n'a pas été dit, c'est que à la suite des attaques de Nicolas Sarkozy contre les juges, la magistrature se met en grève massivement, et puis plus largement, enfin au-delà de cette affaire, on peut voir apparaître le pays silencieux, un pays un petit peu oublié, la France des campagnes et de ces zones un peu amphibies entre zones maritimes et zones rurales, exactement comme le pays de Ray où Laetitia et sa sœur ont passé leur adolescence. Bref, cette France périphérique, ces zones rurales sont oubliées un petit peu, il me semble, dans le discours politique et même dans la littérature.
Le décor est planté. Yvan Jablonka, vous êtes historien, professeur à l'Université Paris 13, rédacteur en chef de La Vie des Idées, des enfants, de l'assistance publique à ses grands-parents que vous n'avez pas eu, la jeunesse, la filiation sont des thèmes récurrents de vos travaux que l'on retrouve d'ailleurs dans Laetitia, récit, enquête que vous publiez au Seuil en cette rentrée. Aux yeux du monde et donc au vôtre, Yvan Jablonka, elle est née à l'instant où elle est morte. Vous en faites votre héroïne. Est-ce qu'elle est héroïque pour autant, cette Laetitia Perret?
Non. Laetitia Perret a vécu une vie très dure. Et c'est pas parce qu'on est une victime qu'on devient nécessairement un héros. Ce serait vraiment se méprendre sur le sens de la souffrance. Ce que j'ai voulu en faire, c'est l'héroïne de mon travail, de mon livre, qui est aussi un essai, enfin un travail littéraire. Donc c'est pour ça que je parle d'héroïne. En effet, j'ai essayé de renverser la perspective habituelle. Quand on parle d'un fait divers, on est centré sur le crime, c'est-à-dire la mort, la violence extrême, et aussi la personnalité du meurtrier. Et c'est d'ailleurs quelque chose de bien plus vaste que le simple fait divers. On se souvient principalement des bourreaux et des meurtriers, qu'ils soient des dictateurs, des terroristes ou encore des serial killers. J'ai voulu renverser la perspective et m'intéresser à la victime, certes, mais au-delà d'elle, aux disparus, aux gens qui se sont volatilisés parce qu'ils ont été en quelque sorte anéantis par le crime qui les a fait disparaître. Et moi, c'est une espèce de mission que je me suis fixée, qui est à la fois une mission, on va dire, historienne, mais sans doute aussi morale et bien sûr familiale, retracer la vie des disparus et les arracher à leur propre mort, non pas pour les faire revivre, ça n'a pas de sens, mais pour les rétablir dans leur singularité, dans leur dignité.
Et vous comprenez que ça puisse paraître un peu, non pas paradoxal, mais un peu dérangeant, provoquant aussi, de faire de vrais gens morts des héros littéraires?
vrais gens, c'est une expression que j'emploie pas pour ma part.
Des gens qui ont vraiment vécu, je veux dire.
Ah oui, des gens qui, réels, on va dire. Mais c'est l'objet de l'histoire. À quoi sert l'histoire si ce n'est pas pour éclairer la vie des disparus? Alors quels disparus, qu'ils soient importants ou anonymes, comme mes grands-parents qui ont disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais cet effort pour rétablir les disparus dans leur singularité, leur dignité, c'est quelque chose que beaucoup d'historiens font, et en tout cas...
Dans les livres d'histoire.
Oui, et que j'ai fait à titre personnel dans mon livre Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, où et déjà j'essayais...
Ça fait trois fois que vous en parlez, mais il n'y a vraiment aucun rapport entre la disparition de vos grands-parents, telle qu'elle a été racontée par vous-même, et puis cette histoire de Laetitia.
Mais si, le rapport, il est fondamental, c'est que dans les deux cas, ce sont des gens qui ont été anéantis par un crime qui non seulement leur a fait perdre la vie, mais qui commande tout le récit de leur vie. C'est-à-dire que quand on regarde une victime de la Shoah ou la victime d'un fait divers, on a l'impression qu'ils sont nés pour être tués un jour. Et tout le récit de leur vie est orienté, commandé par la fin, c'est-à-dire le crime. Alors, bien entendu, je vous entends, un génocide, ce n'est pas un fait divers. Et bien évidemment, c'est une différence de nature et c'est là que la comparaison s'arrête. Un génocide, c'est une violence d'État et un fait divers, c'est une violence, on va dire, entre particuliers. C'est l'immixtion de la violence dans la vie quotidienne et c'est pour ça qu'elle a quelque chose de fascinant. Alors que, au fond, la violence la plus terrifiante, c'est la violence du génocide. Parfois, des gens me disent « Mais travailler sur cette jeune fille qui a été massacrée, c'est vraiment horrible. » Bien sûr que c'est horrible. Mais enfin, j'ai quand même travaillé sur quelques génocides du XXe siècle et je peux vous dire que c'est bien plus horrible.
Laetitia, est-ce que c'est un livre d'histoire? En cette rentrée littéraire, aidez-nous à mettre une nature sur cet ouvrage. C'est de la non-fiction, comme on dit.
J'ai essayé de faire plusieurs choses à la fois et c'est pas vraiment à moi de dire, de donner une définition définitive. Je suis chercheur en sciences sociales, donc c'est un livre qui a recours à toutes les sciences sociales. J'ai fait de l'histoire, mais je convoque aussi les outils de la sociologie, de la géographie, des sciences politiques et j'ai une vision un petit peu comme ça, unifiée des sciences sociales. C'est un travail littéraire parce que j'ai essayé de construire une narration, j'ai essayé de mettre en œuvre un travail sur la langue, j'ai essayé de faire entendre une voix singulière qui est la mienne. Et puis c'est aussi sans doute une biographie, celle de Laetitia. Il y a sans doute aussi un petit peu une oraison. Bref, c'est plein de choses à la fois et je suis content de cette bâtardise. Je veux dire par là que j'essaye précisément de faire des objets impurs, enfin impurs, c'est-à-dire qui sont...
Hybrides.
Hybrides, voilà, merci. Un petit peu pirates, au sens où ils ne sont pas... Ils n'ont pas leur place toute prête sur une étagère. Et je crois que c'est très bien comme ça.
Alors, votre enquête, vous la qualifiez d'ailleurs de méta-enquête. Quelle méthode avez-vous choisi, adoptée? Qu'est-ce qui vous différencie du journaliste?
J'ai eu recours... comme je le disais, à tous les outils des sciences sociales. C'est-à-dire que je suis allé voir, j'ai fait ce qu'on appelle de l'histoire orale, je suis allé voir des témoins, j'ai fait des analyses sociologiques, j'ai essayé de mettre en perspective certains faits sociaux que met en œuvre l'affaire Laetitia, par exemple.
Ce que ferait aussi un journaliste sur une enquête un peu approfondie.
Oui, enfin, moi,
notamment
j'ai essayé...
Notamment ceux que vous avez rencontrés, hein, cette personne, cette dame de l'AFP.
Oui, oui. Cela dit, c'est moins évident pour un journaliste de remonter au 18e siècle pour parler des enfants abandonnés ou de s'interroger sur la notion même de faits divers qui remonte aux guerres de religion, c'est-à-dire au 16e siècle. Cela dit, je pense que les journalistes et les chercheurs sont en quelque sorte cousins, c'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre des méthodes qui se ressemblent. Alors bien sûr, on n'a pas les mêmes objets, mais enfin, il y a quand même des méthodes qui se recoupent. Par exemple, les chercheurs et les journalistes payent de leur personne, j'entends, se rendent sur place, rencontrent des gens, s'investissent dans une enquête. Et c'est la même chose pour un juge d'instruction qui instruit à charge et à décharge. Bref, il y a un grand cousinage que je reconnais et même ça me fait plaisir de le revendiquer.
Donc c'est moins dans la méthode, dans l'enquête de terrain, que ensuite dans la mise en perspective, dans les comparaisons que vous avez pu en faire, dans l'interprétation que vous avez pu faire de ces faits.
Oui.
C'est comme ça que vous l'interprétez,
oui,
vous aussi. Vous avez rencontré Yvan Jablonka pour ce livre, tous les protagonistes directs ou indirects, famille, proches, avocats, magistrats, journalistes, gendarmes, experts du dossier. Mais vous n'avez pas connu Laetitia. En ce sens, quand même, cette Laetitia que vous racontez dans cet ouvrage paru au Seuil, est-ce qu'elle est un peu la vôtre ?
Laetitia, c'est la grande absente de mon livre. Et on entendait au début de cette émission un compte-rendu où on racontait que le 19 janvier 2011, au lendemain de sa disparition, sa sœur jumelle, Jessica, tombe sur le scooter renversé. Et cette scène, qui est un petit peu la scène inaugurale, est une scène, non pas de crime, mais une scène d'absence. C'est-à-dire qu'on voit un scooter renversé dans l'aube glaciale d'une petite ville de Loire-Atlantique. Laetitia est absente et elle le sera pour toujours. C'est quelque chose qui est à la fois tragique et qui est profondément littéraire, parce que essayer de cerner cette Laetitia, cette grande absente, c'est quelque chose qui vous pousse par une espèce de passion à la fois scientifique et littéraire.
Et alors, vous l'avez cernée ?
Je l'ai cerné, j'espère. Mmh. C'est-à-dire que avec le travail littéraire, avec les outils des sciences sociales, j'ai essayé de la cerner, mais comme on cerne un problème. Et nos mots sont un peu comme les parures qui subsistent des civilisations disparues. Quand on voit un bracelet ou une parure de l'Égypte antique, on sait qu'il y avait des corps pour être embellis, mais ces corps ont disparu et on n'a plus que la trace. La trace, c'est quelque chose qui est profondément littéraire, mais c'est aussi, bien sûr, l'aliment de l'historien. L'historien travaille sur des traces.
Vraiment important de connaître son identité, finalement, puisque ça aurait pu arriver, pas à tout le monde, mais à beaucoup de gens. C'est un fait divers, encore une fois. Est-ce qu'il fallait vraiment trouver dans cette histoire de Laetitia quelque chose de particulier? Et comment vous avez pu procéder pour trouver le général dans le particulier?
D'abord, j'ai voulu, par respect pour sa personne, pour sa mémoire, la rétablir dans sa singularité. Et ça voulait dire raconter sa vie et toute sa vie. C'est-à-dire ses occupations, ses amitiés, ses amours, sa formation. Elle était en train de devenir une jeune femme sur la voie de l'indépendance. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas se centrer simplement sur une vie particulière, sans quoi ce serait plus des sciences sociales et sans doute plus vraiment de la littérature non plus. Et ce que j'ai essayé d'analyser, c'est la vie de Laetitia comme un fait social, et même comme un fait social total. Derrière cette vie singulière, il y a, à mon sens, deux grands faits sociaux. D'abord, la vulnérabilité des enfants. Et Laetitia, toute jeune, peut-être même de manière anténatale, a été un enfant, on va dire, ballotté, peut-être même violenté, négligé, maltraité. Et puis, le deuxième fait social que Laetitia incarne, ce sont les violences subies par les femmes. Et Laetitia, ainsi que sa sœur jumelle et leur mère, ont subi à peu près toute la palette des violences masculines, qui sont des violences misogynes, par définition. Et en ce sens, rétablir la vie de Laetitia, retracer sa vie, c'était aussi analyser la société française sous l'angle de ces deux questions sociales.
Vous parlez de la cerner, Laetitia Perret, comme on cerne un problème, mais au fond, il y a beaucoup plus que ça dans ce livre. Vous y mettez quand même beaucoup d'affect. On sent que petit à petit, non seulement vous la découvrez, cette Laetitia, mais vous apprenez aussi à l'aimer. Et d'ailleurs, vous dites que vous arrêtez ce livre, vous arrêtez votre enquête au moment où finalement tout ça commence à vous rendre triste. C'est là où je vous demandais comment êtes-vous sûr d'avoir réussi à être fidèle à ce qu'elle était vraiment et de ne pas avoir reconstitué une autre Laetitia, ce qui quelque part serait une autre violence à lui faire, puisque vous créeriez votre propre créature.
Laetitia en latin, ça veut dire la joie. Et elle porte bien son nom, même si sa vie a été tragique. Elle porte bien son nom parce que j'ai été heureux de la rencontrer, si je puis dire, par-delà la mort, de même que j'ai rencontré mes grands-parents par-delà le crime. C'est-à-dire que j'ai été heureux de faire cette enquête sur elle, ce qui est la manière la plus intense et aussi peut-être la plus intime que j'avais de la rencontrer. Et en effet, ça m'a inspiré de la joie parce que c'est ce que un historien et peut-être aussi un écrivain peuvent faire,
c'est-à-dire
essayer de redonner de la vie, de la chaleur, de la chair à une jeune fille disparue à tout jamais. Alors pour ce faire, j'ai eu le secours de sources et de traces, et là j'ai été fidèle à mon métier d'historien. J'ai en effet rencontré tous les proches de la jeune fille, sa sœur, ses oncles, son père, etc., ainsi que tous les professionnels de l'enquête criminelle qui ont contribué à lui redonner sa dignité et tout simplement à retrouver son corps. Parce que Laetitia, elle a failli ne pas avoir de sépulture. Et puis, j'ai eu accès aussi à des sources écrites, par exemple son dossier à l'aide sociale à l'enfance, puisqu'elle a été placée à ce qu'on n'appelle plus aujourd'hui l'assistance publique, mais enfin, c'est tout comme. Et puis, j'ai aussi eu recours à son compte Facebook. Grâce à sa famille, j'ai eu accès à son compte Facebook, et je me flatte d'être un des tout premiers historiens, peut-être le premier, à utiliser cette source comme une trace historique. Et je pense qu'au XXIe siècle, Facebook deviendra une archive pour parler de nous qui ne serons plus là dans quelques décennies. Et puis naturellement, j'ai assisté au procès du meurtrier en 2015.
Parce que sur les réseaux sociaux, elle parle effectivement beaucoup d'elle. Je vous lis, je vous cite. Dans tous ces moments, j'ai été avec Laetitia, elle ne m'a pas quittée. J'ai cherché des mots pour dire son silence. J'ai mis de la continuité à la place de la déchirure. J'ai essayé de suivre les sentiers de liberté qu'elle s'est frayée dans l'épaisseur du malheur. Obéissante, mais aussi rebelle. Yvan Jabonka, vous nous avez dit, bien sûr, que vous n'aviez pas rencontré Laetitia. Mais est-ce que son meurtrier, Tony Meillon, vous l'avez rencontré ?
Eh bien, je ne l'ai pas rencontré non plus, figurez-vous.
Il est vivant pourtant.
Oui, il est vivant. Alors, d'abord, je n'aurais pas pu le rencontrer pour des questions de procédure, parce qu'il n'était pas encore définitivement jugé à l'époque où... Bon, mais tout ça n'est en fait qu'un détail. C'est moi qui ai décidé de ne pas le rencontrer. D'abord parce que j'ai eu la confiance de tous les proches de Laetitia et de sa famille, et je pense qu'ils en auraient été meurtris. Et puis, de manière encore plus profonde, le meurtrier de Laetitia n'a jamais été dans une démarche de vérité à l'égard ni de sa victime, ni de son crime. C'est-à-dire qu'il n'a jamais aidé les enquêteurs, il les a même induits en erreur, il a essayé de leur faire croire que Laetitia avait été enterrée alors qu'elle avait été immergée, bref, il a essayé de retarder l'enquête autant qu'il a pu, et puis il n'a cessé de se moquer d'elle par des chansons obscènes où il ironisait sur ce qu'il lui avait fait subir, etc. Donc, Il y a quelque chose d'un peu odieux dans ce personnage. J'ai essayé à lui aussi de lui rendre son humanité, parce qu'après tout, c'est aussi quelqu'un qui a fait une transgression horrible. Mais enfin, après tout, il l'a fait en tant qu'être humain. Mais je ne l'ai pas rencontré, en effet. C'est peut-être une faute de méthode, mais c'est certes pas une faute morale. Et à l'une, j'ai préféré l'autre.
Bon, voilà, c'est un parti pris, c'est un choix. Meillon, un SDF repris de justice, un casier judiciaire de délinquant tout terrain, long comme le bras, 13 condamnations, un caïd fruste, comme vous le décrivez, une petite frappe du Val-de-Loire. Vous ne cherchez pas beaucoup d'explications quand même à son acte dans cet ouvrage. Quand vous le faites, c'est à la manière un peu des gendarmes, d'un procès verbal pour élucider un crime inhumain, comme vous l'écrivez. Les enquêteurs doivent plonger dans l'humanité du criminel, parce que quelque part, quoi ? Vous pensez qu'expliquer, c'est excuser. Vous voulez pas, vous aviez pas eu envie de comprendre précisément pourquoi il a fait ça.
Et surtout, est-ce qu'il y avait de l'idéologie là-dedans ?
D'abord, comme je l'ai dit, mon livre est centré sur Laetitia. Et mon attention et celle du lecteur sont... comment dire, concentré, enfin attiré vers Laetitia, peut-être que quelqu'un d'autre se saisira du crime. Mais moi, encore une fois, mon intérêt, c'était une biographie, c'est-à-dire la vie, le parcours de cette jeune fille. Par ailleurs, on oublie aujourd'hui facilement que Meillon, à l'époque, Tony Meillon, à l'époque, était décrit comme un monstre. Et c'est le président de la République en personne qui le qualifiait ainsi. Moi, dans mon livre, à aucun moment je n'utilise ce qualificatif et j'essaye au contraire de mêler son humanité et son geste criminel. Donc en ce sens, j'essaye quand même de le comprendre.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
13h18 sur France Culture, Yvan Jablonka, l'historien, est notre invité pour son livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil en cette rentrée littéraire. Laetitia est la victime dans cette affaire. À sa mort, sa vie, son identité a été éclipsée, écrivez-vous, par la célébrité qu'elle a offerte malgré elle à l'homme qui l'a tuée. Pourquoi ce titre alors, Yvan Jablonka ? Pourquoi la réduire à un prénom ?
Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ?
Laetitia
Perret ? Oui, Laetitia Perret, mais... pour tout le monde, enfin en tout cas avant que j'écrive mon livre, Laetitia n'était qu'un cadavre mutilé. Quand je dis Laetitia, eh bien, on imagine tout autre chose. On imagine sa vie, ses amours, ses occupations. Et ça aussi, ça a fait partie de ma quête.
Et je vous cite encore, hein, engendrée par ses parents, tuée par Meillon, Laetitia a été en quelque sorte inventée par Sarkozy, écrivez-vous. Elle s'inscrit désormais dans une longue liste de victimes. Le petit Grégory, Jonathan, Priscilla, Aurélia, Ennis, Madison, Mathias, tous ces enfants dont le prénom est devenu le titre d'une affaire, le résumé du crime qui a brisé leur vie et celle de leurs parents. Un fait divers qui plus est récent. Vous venez nous expliquer en quelques mots ce que l'histoire, votre discipline, vient essayer de faire là-dedans. Laetitia Perret, l'affaire Laetitia Perret, et finalement aujourd'hui au croisement de toutes les disciplines. Alors on va commencer à décliner un peu plus ensemble. Exemplaire cette affaire pour les sociologues de la famille, de la jeunesse, les géographes, les économistes. Vous le dites d'ailleurs, l'affaire Laetitia dissimule une profondeur humaine et un certain état de la société, des familles disloquées, des souffrances d'enfants muettes, des jeunes entrés tôt dans la vie active, mais aussi le pays au début du XXe siècle, XXIe siècle, la France de la pauvreté, des zones périurbaines, des inégalités sociales. Yvan Jablanca, exemplaire mais tristement banal quelque part cette affaire, non? Il n'y a qu'une Laetitia, mais il y a des enfances comme la sienne, il y en a des milliers aujourd'hui en France.
Non seulement il y en a des dizaines de milliers, mais ce depuis au moins le XVIIIe siècle. Et ça c'est aussi peut-être ce que ma perspective d'historien peut apporter, c'est que des dossiers d'enfants abandonnés, j'en ai vu beaucoup, j'en ai dépouillé beaucoup, et malheureusement, plus ils sont gros, plus ils sont tristes. Parce que plus il y a d'archives venant témoigner de violences, de négligences, etc. Mais j'ai pas simplement travaillé comme historien, j'ai aussi travaillé comme sociologue, et puis j'ai aussi essayé de mettre en œuvre des réflexions de sciences politiques. En effet, ce qu'on a appelé l'affaire de Pornic, c'est-à-dire l'affaire Laetitia, c'est devenu une affaire d'État par le fait de Nicolas Sarkozy, qui s'est emparé de l'objet et qui a essayé d'en faire un objet politique immédiatement consommable.
Et c'est même un cas d'école hein, aussi pour la science politique, cette affaire, par la politisation, voire la récupération à laquelle elle a donné lieu jusqu'au sommet de l'État. Dès le 25 janvier 2011, Nicolas Sarkozy, au chantier naval de Saint-Nazaire, relance les débats sur la récidive, le suivi des délinquants sexuels. Bref, il appelle à un nouveau durcissement de la politique pénale. On en apprend beaucoup, dites-vous, dans votre livre, Laetitia, sur le fonctionnement de l'exécutif, sa logique accusatoire, comme sa rhétorique compassionnelle, l'émotion, la douleur, toute l'intelligence de Nicolas Sarkozy a été de récupérer cette matière première pour la transformer en objet politique. Là, je vous cite. Deux jours plus tard, le président va mettre en avant les dysfonctionnements de la justice et dénoncer le manque de suivi des multi-récidivistes. On l'écoute.
Notre devoir, c'est de protéger la société de ces monstres. Je dis monstres, parlant du cas de Laetitia, parce que je crois que il y a un moment où il faut employer les mots qui correspondent aux situations et ne pas se voiler la réalité. Il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements graves. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés.
Nicolas Sarkozy, le 3 février 2011 à Orléans, présumé coupable, la faute des magistrats habiles mais stériles quand même. Un peu ce vieux débat qui a traversé l'histoire. Nicolas Sarkozy récidive ce jour-là et s'appuie sur ce fait divers pour en faire une matière, lui, politique. Yvan Jablanca.
L'exploitation politique du fait divers se fait en deux temps. D'abord, le 25 janvier 2011, c'est-à-dire quelques jours à peine après la disparition de Laetitia, le corps n'a même pas été retrouvé et on ne sait même pas avec certitude si elle est morte. Le président de la République, à Saint-Nazaire, s'empare de l'affaire pour en faire, comme il l'a déjà fait, un exemple de crime d'un multirécidiviste délinquant sexuel. Et donc, il appelle à un durcissement de la législation pénale, en ce qui concerne en particulier la récidive. Il l'a déjà fait quelques années plus tôt pour l'affaire Nelly Crémel. C'est un autre fait divers tragique. Et puis,
juste une précision, ce qui est faux, et vous le racontez dans l'ouvrage En l'espèce, c'est que Tony Meillon a toutes les tares du monde, mais ce n'est pas un délinquant sexuel en plus. Alors que c'est de lui que va repartir toute cette affaire. Il y a eu une affaire de pointage en prison, mais c'est pas son long casier judiciaire autour de ce crime et de ces délits que tout s'articule.
Hein, le paradoxe, c'est que quand même, vous aussi, vous en faites un exemple. Par ailleurs, sur un autre plan, évidemment.
Donc, en effet, Tony Meillon est tout ce qu'on veut, mais pas un prédateur sexuel. Et c'est ce que rappelle d'ailleurs le procureur de la République en personne, hein, Xavier Roncin, très tôt. Il ne fait que son devoir, certes, mais enfin, c'est faire preuve d'un certain courage pour désavouer, pour désapprouver publiquement le président de la République. Non, ce n'est pas un multirécidiviste pervers sexuel. Donc, comme Nicolas Sarkozy se voit un petit peu dépossédé de sa belle prise, hein, de son fait divers, il change son fusil d'épaule, si je puis dire, et il embrasse une deuxième thématique qui va être celle des dysfonctionnements. Et ça, c'est le discours qu'on vient d'entendre, c'est celui du 3 février 2011. Cette fois, Laetitia a été retrouvée, enfin une partie de son corps, on sait donc qu'elle est morte et de manière horrible. Et Nicolas Sarkozy, dans la cour d'un commissariat d'Orléans, s'en prend au juge et déclare qu'ils auraient relâché dans la nature un monstre, que c'est une faute et que cette faute va être suivie de sanctions. Il qualifie d'ailleurs Tony Meillon de présumé coupable. On sait très bien que c'est l'inverse, hein, en droit, on parle bien de présumé innocent, évidemment. Le président de la République parle, lui, de présumé coupable et promet au juge des sanctions. Et ça, c'est, si je puis dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisque Nicolas Sarkozy n'en est pas à sa première attaque contre la magistrature. Et ça jette dans la rue entre 8 et 10 000 magistrats et personnels de justice, dans un mouvement de grève et de colère complètement inédit en France. Je crois qu'il faut remonter à la Fronde dans l'enfance de Louis XIV, c'est vous dire, pour voir ce genre de manifestation de la magistrature. Et c'est un mouvement de colère sans précédent, parce que les juges expriment leur écœurement, leur sentiment d'être, non seulement de ne pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions, mais en plus d'être désignés à la vindicte populaire.
Alors, en l'espèce, le président, qui est quand même coutumier des lois d'opportunité, va cette fois se heurter aux réticences de sa majorité à légiférer une nouvelle fois sur la récidive. Antoine Mercier,
oui, je voulais
emblématique.
Juste une question, parce que j'avais l'impression que tout ce que vous nous dites, effectivement, est très frappant. Enfin, on voit bien l'ampleur que prend l'affaire, mais on se dit, après tout, on mettrait Yvon Jablonka sur un fait divers, une disparition, n'importe laquelle, on aurait le même résultat. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai cette idée?
D'abord, il y a bien un moment où il faut choisir. Et j'ai choisi celle-là parce que c'était elle, parce que c'était moi, selon la formule célèbre.
Et puis parce qu'il y a peu de faits divers quand même qui ont pris une telle ampleur sur le moment, hein, effectivement.
C'était quand même deux
mois
d'émotion.
Vous vous souvenez bien, Antoine Mercier, vous avez dû le
couvrir comme
journaliste.
Moi, j'en ai connu beaucoup, les comme ça, on va dire.
Ben, moi, je vous mets au défi de me citer un fait divers qui soit devenu une telle affaire d'État. Alors, il y aura, bien sûr, l'affaire Grégory, par exemple, est devenue une affaire nationale. Mais ce n'est pas une affaire d'État. Une affaire d'État, c'est quand tout l'appareil politique, l'appareil d'État, se voit ébranlé par un fait divers. L'équivalent, et encore, c'est l'affaire Dutrou en Belgique. Pour la France, je ne vois pas tellement. Peut-être l'affaire Callas, mais là encore, il faudrait remonter à Voltaire. Sinon, cette affaire Laetitia est devenue une espèce d'épicentre politico-judiciaire qui a fait trembler toute la France. Et ça m'a vraiment fasciné, au-delà de l'émotion que j'ai pu ressentir pour Laetitia, mais ça m'a vraiment fasciné parce que là, on est vraiment au cœur de
l'histoire.
C'était
le signe qu'il y avait quelque chose.
Ah ben, il y avait plus que... mais je pense même que ça restera un des moments importants du quinquennat Sarkozy. Parce que derrière tout cela, il y a tout un art de gouverner qui se révèle. Sarkozy qui attaque les juges ou qui fait feu de tout bois pour durcir la législation, c'est tout un art de gouverner qui se révèle. Alors hélas, on ne le voit pas dans le livre de Nicolas Sarkozy qui vient de sortir, où il ne fait pas l'analyse de son propre art de gouverner. Mais enfin, Nicolas Sarkozy, c'est un président qui a eu le génie d'instrumentaliser la peur, d'instiller des divisions au cœur du corps social. Il y a quand même une forme de génie politique. Bon, on en pense ce qu'on veut et on se doute bien de ce que j'en pense, mais il faut rendre hommage à ce caractère très inédit de la gouvernementalité sarkozyste.
Est-ce que vous êtes aujourd'hui le premier porte-parole ou le premier tenant de l'histoire subjective, Yvan Jablonka?
Vous savez, subjective, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est sûr, c'est qu'un historien, un chercheur, c'est un individu, c'est un citoyen, c'est un père, c'est une mère, c'est un homme, c'est une femme, etc. En ce sens, mon histoire est subjective. Pour le reste, je ne renie jamais les outils et les méthodes des sciences sociales.
Yvan Jablonka, vous titrez l'un de vos derniers chapitres par Laetitia, c'est moi. Finalement, Laetitia, c'est aussi nous. C'est ce que vous nous racontez dans cet ouvrage avec toute la valeur emblématique et collective de ce fait divers que vous tentez de souligner. Juste pour finir, il y a un sous-titre à ce livre qu'on ne voit que quand on enlève la couverture noire qui recouvre cet ouvrage. Laetitia ou la fin des hommes. Quelle fin des hommes ?
La fin des hommes,
c'est le bilan de l'affaire, ce sous-titre ?
La fin des hommes, c'est d'abord comme le basculement d'une civilisation. C'est un crime d'une noirceur telle qu'on a l'impression que c'est un crime de fin du monde. C'est d'abord ça, la fin des hommes. Et puis, de manière évidente, c'est la fin des hommes au sens masculin, c'est-à-dire le dévoiement final d'un patriarcat qui n'en finit pas de mourir.
Merci beaucoup, Yvan Jablanka, d'avoir été l'invité de cette première grande table de la rentrée. Un grand merci à vous, Antoine Mercier. On vous retrouve demain à la même heure.
Demain.
La brigade de la grande table, c'était à la réalisation Perré Legras et Luc-Jean Reynaud, à la technique Pierrick Monsigny, et puis toute une équipe que je vous présenterai demain. Mais oui, promis, j'ouvrirai même avec.